Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, on avance dans l'étude de notre paracha, donc on arrive à un nouveau chapitre qu'on lit dans nos communautés, et c'est Béar. Béar est connu pour être la paracha qui parle beaucoup de la terre, notamment la Shemitah. Mais vous voulez intervenir sur un point qui est très précis. Il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Onah. Onah, c'est-à-dire on n'a pas le droit de tromper l'autre, on n'a pas le droit d'arnaquer. Il y a toute une idée comme ça. Si on dépasse un prix d'une certaine valeur, plus d'un sixième par exemple, c'est interdit. On n'a pas le droit de profiter de l'autre. Voilà. Peut-être c'est comme ça qu'on pourrait traduire. D'ailleurs, je ne vais pas le faire à votre place. Vous voulez intervenir ce soir et nous expliquer pourquoi cette idée de profiter de l'autre ou de l'arnaquer, c'est considéré comme un interdit grave. Hein, c'est d'oraita.
Exact. Alors, l'interdiction de Onah, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, il y a aussi ce qu'on appelle Onat Dvarim, c'est-à-dire toute parole qui peut faire mal, d'accord ? Et le verset dans l'interdiction, donc « velotanu ish et amito », l'interdiction, comme vous l'avez traduit, de l'arnaque, et on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, il y a marqué à la fin du verset « viaretam elokeche », tu craindras l'Éternel. Pourquoi ? Parce que, de manière générale, celui qui justement essaye de se faufiler pour pouvoir, on va reprendre votre mot, d'arnaquer l'autre, bien, il se débrouille pour que justement l'autre ne se rende compte jamais. Et c'est la raison pour laquelle le texte nous dit « Veuille arrêter Melokecha » et tu craindras l'Éternel. C'est-à-dire, attention, il y a quelqu'un qui te regarde. Vous savez, c'est cette fameuse histoire très très connue avec le Hafetz Chaim qui un jour est sur une calèche, sur une charrette avec quelqu'un qui le conduit. Et puis à un moment, le conducteur laisse aller son animal et s'égarer un petit peu sur les bas-côtés parce que eh bien il y a des champs et puis dans les champs il y a de quoi manger. Alors donc, l'animal commence à brouter et le Hafetz Chaim dit au conducteur attention, il y a quelqu'un qui te regarde. Alors l'autre bien sûr tout de suite reprend les rênes et il avance, et puis après très prudemment il regarde en arrière et voit que la route est déserte et s'interroge et dit mais il y a personne. Et le Hafetz Chaim lève le doigt vers le ciel, il dit si, on te regarde. Et évidemment ce veyaretam elokecha, il est là aussi pour nous rappeler que dans des moments pareils, c'est entre nous et nous-mêmes, mais c'est entre nous et Dieu. Et ça, c'est déjà un premier point. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous le préciser ? Parce qu'on est dans un monde dans lequel la ona, c'est quelque chose que l'on peut organiser et que l'on peut trouver normal. C'est-à-dire, l'individu est capable, au fond, de construire un système dans lequel, eh bien, il ne voit pas où est la difficulté, il ne voit pas où est le problème. Et donc, c'est la raison pour laquelle eh bien, la Torah va insister là-dessus. Alors, au niveau du commerce, évidemment, ça a des incidences qui sont très, très claires. Et il faut savoir que cet interdit existe aussi bien vis-à-vis du juif que du non-juif. Et ça, souvent, les gens l'oublient. Les gens pensent que lorsqu'une personne n'est pas juive, eh bien, tout est permis. Et je vous rappelle que l'interdiction de voler, elle est valable aussi bien vis-à-vis d'une personne qui est juive que d'une personne qui n'est pas juive. Il faut qu'une fois pour toutes, les choses soient claires et soient dites, parce qu'on ne peut pas sans arrêt entendre des choses qui sont inexactes. C'est clair, sans aucune ambiguïté. Et là, on a, ça serait en effet, entre autres, vendre un prix au-dessus de sa valeur sans que l'acheteur ne le sache. C'est-à-dire, l'acheteur est persuadé que c'est ça son prix, alors qu'en vérité, ce n'est pas ça son prix. Alors, on est bien d'accord que quand vous achetez un t-shirt dans un magasin, on sait très bien que le prix à la production au Bangladesh ou ailleurs, ce n'est pas grand-chose. Mais évidemment, il y a là-dedans beaucoup de choses. Et quand, d'ailleurs, on va dans un magasin de marque, on sait très bien qu'il y a des marges qui sont très importantes, mais la personne le sait. Elle sait qu'elle a une qualité supplémentaire et en même temps, la notion de marque est quelque chose qu'elle est prête à payer plus. Et ça, c'est en effet complètement accepté. D'ailleurs, le texte nous le dit clairement. Lorsqu'un artisan vous dit « Oumanouti », je te vends mon savoir-faire, ou alors on pourrait dire éventuellement ma renommée, ma griffe, comme on le dit aujourd'hui, eh bien, j'évalue que un meuble fait par moi, eh bien, ça vaut tant. Une robe, une chemise, un habit fait par moi, ça vaut tant. Un bijou, quand c'est moi qui l'ai fait, ça vaut tant. Quand vous regardez, par exemple, un bijoutier sur la place Vendôme, eh bien, on peut refaire plus ou moins le même bijou, mais ailleurs, il sera vendu beaucoup moins cher. Pourquoi ? Parce qu'il est griffé, parce qu'il provient d'un endroit particulier. Là-dessus, il n'y a pas de problème d'ONA parce qu'il y a une forme de savoir clair de la part des deux parties. Par contre, si on a un prix moyen qui est sur le marché d'un objet classique et que là, on le vend plus d'un sixième au-dessus de sa valeur, là, on est véritablement face à une question d'ONA. Derrière la problématique de l'ONA, se pose une question très simple, c'est quelle est la relation qu'on a avec Dieu ? Non pas juste dans le regard que Dieu va porter sur nous, mais aussi sur le fait que est-ce qu'on lui fait confiance pour qu'il nous donne la parnassa qui doit nous revenir en respectant ses règles ? Dieu n'a pas besoin qu'on augmente ses prix de manière inconsidérée pour nous envoyer ce dont on a besoin. Et sur cela, c'est en effet tout un enjeu de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu, non pas de crainte dans le sens la peur, au sens lourd, mais au contraire de conscience de la présence de Dieu. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que la Yirat Shamayim, c'est-à-dire la crainte de Dieu d'une personne, ne se mesure pas tant à la manière dont il va mettre ses téfilines tous les jours, ou dont il va faire le Shabbat auquel souvent il a été habitué, mais dans la relation qu'il a à l'argent. C'est là où, en effet, on va voir pourquoi. Parce que, comme le faisait remarquer un de mes maîtres un jour, il nous disait, vous savez, c'est intéressant de voir que très souvent, dans les lois de la cache-route, les gens sont très méticuleux, et c'est une bonne chose, qu'on soit bien clair d'être méticuleux, c'est une bonne chose, et ils cherchent chaque fois l'élément supplémentaire. Non, mais je veux une meilleure cache-route, et pourquoi pas ? Mais il est intéressant de constater que dans toutes les lois qui concernent l'argent, ils cherchent toujours la vie le plus permissif. C'est intéressant de voir que, eh bien, dans des univers, on cherche... Non, mais... D'après telle opinion, on peut. Combien de personnes, il se trouve que parfois on m'appelle pour me poser des questions, et si j'ai appris, alors j'essaye de répondre à ce que je sais, puis sinon j'ai la chance d'avoir des maîtres à qui poser la question, on va me dire, non mais Rav, est-ce que ça c'est permis ? Non, parce que j'ai entendu dire que c'était pas si grave et que c'était pas si important, et que dans la mesure de. Et généralement, ce type d'argument existe lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est lié à l'argent. Et cet argent-là que l'on appelle en hébreu « kesef ». Et « kesef », entre autres, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont liés à l'argent, mais le terme de « kesef », c'est « lirsof », c'est une forme de désir profond. On aspire très très fort à cette chose-là, c'est quelque chose qui nous attire profondément. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah, sur ces lois-là, va insister. L'interdiction de la ona, on va voir aussi dans un autre lieu tout ce qui a trait aux lois sur les poids et mesures, à tel point que la Torah nous dit qu'on ne doit pas même pas posséder chez soi, posséder juste des poids et mesures inexacts. La personne va dire, mais je ne les utilise pas. Le fait de les avoir n'est pas quelque chose d'acceptable. Pourquoi ? Parce que c'est avoir face à soi quelque chose qui nous ouvre à l'idée que l'on pourrait à un moment peut-être un petit peu escroquer l'autre. Et donc, cet état d'esprit ne doit pas être présent à l'intérieur de chez nous. Et de la même manière que cet interdit existe donc dans les lois du commerce, eh bien, il va exister aussi dans les relations aux autres. Et on nous dit que c'est tout ce qui pourrait à un moment désarçonner l'autre, faire en telle sorte que l'autre ne se sente pas bien, parce que quand vous réalisez que vous avez été arnaqué, vous n'êtes pas très content. Et on nous dit, eh bien, rappelle-toi que c'est la même chose, surtout dans le couple, où en effet, on dit, puisque, alors, vous allez l'entendre au second degré, parce que sinon, ce ne serait peut-être pas très élégant de ma part, puisque les pleurs d'une femme peuvent arriver plus rapidement. Eh bien, on doit être extrêmement vigilant, justement, de ne pas la troubler, de ne pas générer chez elle un mal-être, de la même manière qu'on générait un mal-être chez quelqu'un qu'on aurait escroqué et qui ne se sent pas bien parce qu'il se sent floué, parce qu'il sent qu'au fond, on s'est moqué de lui, parce qu'au moment où on fait cela, on est face à la personne, on la regarde, mais au fond de nous-mêmes, on sait très bien qu'on est en train de faire un truc pas très clean, mais ce n'est pas grave parce qu'on a décidé qu'au fond, ben, pour nous, ce n'était pas un problème. Et ce sentiment, mais... Est-ce que tu as tenu compte de ma présence ? Est-ce que tu as réalisé que ça pouvait être difficile pour moi ? Surtout, le moment où je vais m'en rendre compte ne l'a pas du tout effleuré. Et c'est là, en effet, on a la Yirat Shamayim. On trouve aussi cette notion-là de manière très intéressante dans le fait que lorsqu'on a, dans notre tête, décidé un prix, eh bien, du moment qu'on l'a décidé, on ne change pas de prix, même si on se rend compte que l'ignorance du client pourrait nous amener à l'augmenter. Mais à partir du moment où les choses sont claires, on doit, motza sotera, même si ce n'est pas quelque chose qu'on a dit, évidemment, si on l'a dit, c'est du domaine de l'évidence, mais même si on ne l'a pas dit, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit installer. C'est peut-être très intéressant parce que on est ici sur des choses très fines. Vous savez qu'il y a un texte, justement, dans le Talmud, dans le Perek Hazav, qui nous parle de la notion de Miché Para. Miché Para, c'est quoi ? C'est lorsque vous êtes en négociation avec quelqu'un au niveau business et que vous avez donné de l'argent. On sait très bien que l'argent ne fait pas acte d'acquisition dans la Torah. Le fait d'avoir donné de l'argent, ce n'est pas suffisant pour que la chose nous appartienne. Le texte nous dit que lorsqu'une personne avance beaucoup dans une négociation et après repart en arrière, même si au niveau de la loi pure, on ne peut rien lui dire, mais il y a marqué que le Bedin l'a maudit, cette personne, en disant « Mais celui qui s'est fait payer de Sodome et Gomorre et de toutes ces civilisations perverties, c'est lui qui s'occupera de toi. » Pourquoi ? Parce que c'est vrai que tu peux te cacher derrière le fait « Mais c'est bon, ça va. » Mais il y a un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit que la Torah ne veut absolument pas que l'on puisse avoir. Ce n'est pas juste un problème d'argent, c'est un problème d'état d'esprit, un autre rapport au monde et aux choses, et surtout la confiance que l'on fait dans le Créateur de l'univers. Si on fait confiance à Dieu, alors on doit être capable de savoir qu'il n'a pas besoin que l'on transgresse les fondamentaux qu'il nous apprend pour pouvoir recevoir ce dont on a besoin. Et c'est avec cela peut-être qu'il faut essayer de s'inscrire dans un quotidien. Nos maîtres nous disent que l'épreuve de l'argent est sans doute une des plus complexes, évidemment, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas la relever.
Vous m'aviez dit un jour dans cette émission quelque chose que j'ai toujours gardé en mémoire. Vous avez dit, ceux qui arnaquent, ils ont toujours des bonnes raisons. C'est exactement ce que vous venez de dire. Tout le monde fait comme moi, de toute façon, tout le monde fait pareil. Celui à qui j'ai pris, ça lui manquera pas. De toute façon, il n'y a que moi qui travaille. C'est moi le premier qui ai eu l'idée. Il y a toujours des raisons. C'est un peu... Je repense. Et j'allais dire le pire. Et je m'en souviens tout le temps et je l'utilise en plus. Je me dis, mais tu vois... On réfléchit comme ça, on dit. Puis de toute façon, avec tout ce qu'il a, c'est pas grave. On en entend ça tout le temps, en fait. L'arnaqueur, il a toujours des bonnes raisons.
C'est sûr, mais c'est pour ça que la Torah nous demande d'être vigilant par rapport à ça, parce que c'est un grand yetzer hara. C'est quelque chose qui peut être très présent. Et voilà. À nous de voir toutes les petites victoires qu'on a par rapport à cela au quotidien et de les entretenir et de les développer.
Rav Eli Lemel, je vous remercie. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Rav Mordechai, bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat shalom, bon mevorar, bezrat Hashem, besorot, tovot, yeshuot.
Surtout pour vous, Jérusalem, que vraiment, que Dieu vous protège.
On se souhaite enfin, des bonnes nouvelles avec des délivrances. Cette semaine, on a vécu une délivrance, un rachat en moins, un impie, un tortionnaire en moins sur le monde. Baruch Hashem.
Qui tombe comme ça dans l'air, c'est vrai que c'est impressionnant.
Qui tombe du ciel.
Mais je voudrais aussi signaler autre chose d'ailleurs auparavant, c'est que, qui vient d'Iran, donc vous m'y faites penser. Il y a eu une mobilisation mondiale. Mais ça, c'est ce que permet Internet, c'est très beau. Il y a une mobilisation mondiale pour lire des psaumes pour un jeune juif iranien qui était en prison à Téhéran. On a obtenu un sursis et qui devait être exécuté, mais je crois que la plupart des gens qui nous écoutent le savent. On a obtenu un sursis par des prières comme ça de un mois. Que Dieu le protège, fasse qu'il sorte rapidement. Mais
Amen.
Là, il était menacé d'exécuter. On a appris samedi soir, hop, exécution repoussée d'un mois. Donc on avait déjà. C'est intéressant parce que quand on voit des choses comme ça face à soi, on a envie de les oublier.
L'Iran, moi j'ai dit aujourd'hui que l'Iran, c'est la source des meilleures nouvelles pour le peuple juif. Ils nous envoient des missiles et là on découvre que la prière peut arrêter tout. Là maintenant, on découvre que HM s'occupe en direct de nos ennemis. Vraiment, c'est des gens qui nous apportent des très très belles nouvelles. Donc on va leur envoyer un bouquet de fleurs pour leur présenter nos plus vifs remerciements.
Merci pour les 136 missiles, c'était très beau à regarder. D'ailleurs, il n'y a que les Israéliens pour vivre comme ça. Je me demande comment vous faites.
Je vous l'ai dit, ici, c'est ou l'humour ou les élections, c'est tout.
J'ai appelé à des amis en Israël le jour du missile, ils me disent « on est devant la télé, on attend ».
On fait comme ça quand on vous dit on va vous envoyer 136 missiles. Ouais, ouais, on est devant la télé, on attend, on a l'heure là, on commence à voir les images.
Bon. On lit télé.
Bah tiens, parlons de confiance. Parlons de confiance en Dieu. Béar, on l'a dit, c'est la paracha de la terre. Mais vous, vous y voyez aussi la paracha de la confiance. Par exemple, la Shemitah. La Shemitah, pendant... Qui a un business, une boutique, et dit je vais fermer pendant un an et tout ira bien? Personne. Si vous avez une boutique ou déjà la fermer un jour par semaine, vous tremblez. Bon, un an, sachant que la Shemitah, c'est pas un an, c'est beaucoup plus. Parce que l'année d'après, en fait, on est... Enfin, c'est vous qui allez m'expliquer ça, je vais pas le faire à votre place, mais vraiment, dire j'arrête de cultiver la terre parce que Dieu m'a promis qu'après, les récoltes reviendront et j'aurai, en fait, je n'aurai aucun effet, j'aurai aucune perte en faisant comme ça, c'est vrai qu'il faut vraiment croire en Dieu, ou alors on fait un autre métier.
Alors non, mais c'est vrai, alors donc cette paracha, effectivement, elle a été destinée, elle est destinée entre autres, et cette mitzvah-là, donc d'observer une année de chômage total dans une société qui était essentiellement agricole. Je vous rappelle qu'au départ de la création de l'État d'Israël ici, quand le débat a opposé les partisans de l'observance pendant la mitzvah de Shemitah et ceux qui étaient contre, et c'était la même chose, la société elle était essentiellement agricole. Une grande partie du PIB israélien, produit intérieur brut, était un produit agricole. Aujourd'hui c'est différent, mais quand même. Alors, ce qui est étonnant dans cette paracha, c'est qu'on nous situe la mitzvah de Shemitah comme étant une mitzvah qui va développer la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est quoi le bitachon? C'est la traduction concrète de la foi. Qui croit que Dieu a créé le monde et l'administre à chaque instant? Levez le doigt. Vous levez le doigt, vous avez la foi en Dieu. Qui croit que Hachem, à chaque instant, décide que chaque événement qui se passe dans ma vie, eh bien, c'est lui qui le conduit? C'est la confiance en Dieu. Eh bien, ça, c'est la traduction concrète de la Emouna. Dans la mitzvah de Shemitah, on nous demande d'avoir à la fois la foi et la confiance. C'est-à-dire, pendant un an, on arrête de cultiver la terre et non seulement on aura la bracha, la bénédiction, dans cette année, on va manger, mais également dans l'année suivante, le temps d'ensemencer, de récolter, de pouvoir enfin, quelques mois plus tard, profiter donc de la récolte. Alors, il y a quand même quelque chose qui va mettre un bémol à cette confiance. C'est que si vous regardez au chapitre 25, verset 21, Dieu vient et dit « Vestivitiet bichati, je vais ordonner qu'il y ait ma bracha pendant la sixième année, et vous aurez une récolte pendant trois ans. » Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez que Bill Gates vienne et dise à un type, voilà, je te donne 20 millions de dollars, je te mets un magasin en gérance, qui est un magasin qui marche très bien depuis 20 ans, il fait 30 millions de chiffres d'affaires par an, et ça marche, ça ne s'arrête pas d'augmenter, chaque année, il y a 1 million de dollars en plus, et je te couvre, je te mets 20 millions de dollars sur ton compte, si jamais il y a le moins de problème, n'hésite pas, la seule chose que tu dois faire, c'est fermer le magasin Shabbat, parce que tu es dans un quartier juif, et j'ai déjà essayé, moi, Bill Gates, j'ai déjà essayé d'acheter le Shabbat des Juifs, ça ne marche pas, donc je sais qu'il vaut mieux faire un magasin pour un Shabbat, mais t'inquiète pas, ça marchera. J'ai la promesse de Bill Gates, j'ai l'argent de Bill Gates, j'ai les moyens de Bill Gates, j'ai un magasin qui tient. Quel est le problème? Où est-ce que je dois avoir confiance? Où est mon risque? Alors c'est la même chose. Kilou, Kaviarol, je donne ici une parabole, un exemple. Là, c'est Dieu lui-même qui vient et qui me dit « Mais je vais donner ma bracha, tu peux être tranquille. » Alors elle est où la confiance? Ben voilà, Dieu vient et dit « Tu fais cette mitzvah et il y aura la bénédiction. » C'est signé, moi je te le garantis. Et c'est écrit dans la Torah, c'est une parole de la Torah elle-même. Ce n'est pas nos sages qui nous le révèlent au détour de l'étude d'un verset. Ce n'est pas une Gemara, ce n'est pas un Zohar, ce n'est pas la Kabbale, ce n'est pas la mystique juive, c'est Dieu lui-même qui parle. Alors elle est où la confiance ici? Quel est le moteur de la confiance en Dieu? Ou au contraire, quel est le moteur du manque de confiance en Dieu? Alors, la réponse, elle se trouve dans les versets parce que, en fait, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, on va au verset 20, en fait, cette promesse de Dieu, elle vient en réponse à une question. Véritambrou, si vous voulez dire Manochal, Bachana, Jvit, qu'est-ce qu'on mangera la septième année? On va pas ensemencer, on va pas récolter. Et là, Hachem répond. C'est une réponse à une question. Cette promesse que Dieu fait, il l'a fait en réponse à une question. Et en fait, la Torah vient de la chose suivante. Sachez que quand je vous ordonne cette mitzvah, en vérité, d'une certaine manière, je vous mets au défi de croire dans mes promesses. Mais étant donné que le Yetzera, le mauvais penchant, les forces spirituelles destructrices sont là, le manque de confiance en Dieu, le manque de émouna, de foi est présent, et qu'en fait, une des raisons pour lesquelles nous sommes venus dans ce monde, c'est pour précisément muscler le muscle, développer le muscle de la foi et de la confiance en Dieu, eh ben, en vérité, vous aurez un défi, vous allez avoir une question. De la même manière que d'ailleurs les Bnei Israël, malgré le fait qu'ils ont mangé la manne dans le désert, ils avaient la manne, et ben la manne, elle témoignait de leur confiance en Dieu. Ceux qui n'avaient pas tellement confiance en Dieu, ils devaient aller la chercher à des kilomètres. Ceux qui avaient confiance en Dieu, ils l'avaient devant leur porte. En réalité, la manne, elle reflétait le niveau de confiance en Dieu d'un individu. C'est exactement la même chose pour la mitzvah de Shemitah. En fait, c'est une mitzvah qui met au défi le juif. Elle le met au défi. Et d'une certaine manière, je veux dire autre chose. Le Shabbat lui-même, c'est une mitzvah qui met au défi. Regardez, l'argument numéro un des gens qui ne font pas Shabbat, c'est toujours de dire « Oui, mais c'est mon jour, c'est ma boutique, c'est ma parnassa. » Justement, ferme pendant 1, 2, 3, 4, 5 Shabbat et tu verras que tu vas manquer de rien. En fait, c'est mitzvot qui nous demande de nous désengager du réel, de nous désengager de l'économique, de l'activité économique, elle constitue un véritable défi, parce qu'elle constitue un défi à notre envie de contrôler. En fait, cette tentation du contrôle, elle va avec la notion même de Ishtadlut, c'est-à-dire d'effort que nous devons faire dans ce monde pour parvenir à un résultat. Dans ce monde, on ne peut pas rester assis dans son coin et attendre que ça vienne. Il faut faire un certain nombre, prendre des initiatives, il faut faire un certain nombre de choses dans le monde de l'action. Mais il y a un mais, c'est que cette action, elle est définie de manière très précise, et en tout cas, elle est encadrée par le Shabbat, et tous les 7 ans en Israël, par exemple, par la mitzvah de Shemitah. Comme pour mieux nous dire que malgré le fait que nous entreprenons et que nous faisons des choses, en réalité, nous ne contrôlons pas tout. Or, c'est notre yetzer numéro un, c'est notre tendance numéro un de penser que nous contrôlons tout. Et regardez les événements que nous vivons aujourd'hui. On l'a dit ici dans l'introduction de ce propos, on voit bien à quel point on a ici un État, on a ici une armée, on a ici des gens qui sont décidés à lutter pour abattre les cannibales nazi-islamistes du Hamas. Enfin, on voit bien que le destin du peuple juif, il tient sur la prière, on voit bien qu'il tient sur l'étude de la Torah, on voit bien qu'il tient sur des choses qui sont très particulières, parce que finalement, si le Hezbollah nous envoie 2000 missiles d'un coup, et que les Iraniens, à Dieu ne le plaise, nous envoient 5000 missiles d'un coup, il n'y a que la prière qui peut arrêter. Et en fait, Hachem peut nous arrêter. Et donc, d'une certaine manière, dès qu'on est engagé dans la réalisation d'objectifs économique, politique, stratégique, on se heurte toujours d'une certaine manière au fait que nous ne contrôlons pas tout. Et donc ça nous renvoie à l'origine, finalement, de ce que nous avons à faire et de ce que nous avons à penser. Si nous ne contrôlons pas tout à l'arrivée, c'est qu'au départ, nous ne contrôlons pas tout non plus. Et donc c'est avec cette idée qu'il faut grandir. C'est avec cette idée qu'il faut appréhender finalement le monde dans lequel on vit, que ce soit à titre individuel dans la Parnassa, dans notre travail, mais aussi au titre collectif pour le peuple juif. Le peuple juif n'obéit pas aux règles économiques, politiques, stratégiques auxquelles obéissent tous les autres peuples. C'est un peuple particulier, il est né au pied du mont Sinaï, le jour où il a reçu la Torah, et donc par conséquent, il obéit à des règles qui sont des règles avant tout spirituelles. Israël, le peuple juif, est une entité spirituelle qui est née il y a plus de 3300 ans. Et donc la prière, l'étude, les mitzvot, eh bien, c'est ce qui accompagne finalement tout ce que nous faisons dans ce monde. Nous travaillons, nous nous battons, nous avons une armée, très bien, mais ce qui doit être bien clair, c'est que ce qui accompagne, ce qui permet la réussite, ce qui accompagne le travail qu'on fait, ce sont précisément ces mitzvot-là, et précisément muscler cette émouna, cette foi, et cette bitachon, et cette confiance en Dieu. Et donc, ce qui va s'exprimer par la prière, par les teilim, par la solidarité, par le chesed, par l'amour du prochain, par une solidarité infaillible. Aujourd'hui, j'ai eu des larmes qui m'ont coulé, j'ai entendu l'histoire de Hamid Bouskila. Et la vidéo n'avait pas été révélée jusqu'à la dernière minute, mais on entend que cette femme-là qui a été abattue par les terroristes nazi-islamistes du Hamas, la première partie, on l'entendait, elle criait je suis, on me tire dessus, mais là maintenant, la dernière partie vient d'être révélée, on entend les tirs, on l'entend elle qui était à la Nova, en train de danser là-bas à la Nova, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Am Israël, c'est un peuple kadosh, chaque juif est kadosh. Ça, il faut se souvenir de ça aussi au passage, je n'ai pas le lien directement pour moi, mais il faut le dire. Chaque juif est kadosh, il ne faut renoncer à aucun juif. Il ne faut pas imaginer qu'il y a des juifs loin, proches, non, c'est tout le monde est lié à Kadosh Baruch Hu d'une manière ou d'une autre. Et cette paracha vient nous rappeler qu'il faut mettre ça, ancrer ça dans notre quotidien, mais il faut savoir que c'est un lien indéfectible pour chacun d'entre nous qui s'exprime, je l'espère au quotidien pour le plus grand nombre, mais qui va s'exprimer également parfois dans les conditions plus dramatiques. Voilà. Shabbat shalom pour tout le monde, Bezrat Hashem, et que nous méritions des bonnes nouvelles et la délivrance finale.
Alors, c'est vrai ce que vous dites, évidemment. C'est son oncle qui, à son enterrement, a dit Hamid Bouskila. Hein. Donc, ouais. Cette femme qui, d'ailleurs, est une femme qui travaille dans la mode et qui était à la rêve partie un samedi après-midi chez Simchat Torah. Et il a dit, je vais vous dire c'est quoi les dernières paroles, parce qu'il l'avait au téléphone en fait, pendant que les terroristes lui tiraient dessus. Et ses dernières paroles, elle a lu le schéma pour elle-même. C'est-à-dire, c'est elle-même qui a lu la prière avant de partir. Quand même incroyable. Il paraît même qu'elle, de ce que dit l'oncle, il dit, elle a remercié Dieu. Je ne sais pas quelle phrase elle a pu utiliser à ce moment-là. Parce que peut-être que pour elle, je ne sais pas. Donc il a dit ça et elle a lu le schéma en sachant que c'était fini.
Fondamental, fondamental de le rappeler, parce que finalement on vit dans un contexte politique et stratégique qui est très, très angoissant. Parce qu'on voit la montée des haines. Mais en fait, cette montée des haines, elle traduit qu'une seule chose, c'est que le peuple juif reste un peuple particulier.
Amand Rabiton, je vous remercie. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Rav Gueh, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gueh, on a bien besoin de bitachon en ce moment, hein, de confiance, de emouna, de... et vraiment, Béar, c'est la paracha de la confiance en Dieu, avec notamment l'histoire de la Shemitah.
Exactement, la Shemitah, c'est une halakha, une règle, une loi qui est tout simplement extraordinaire dans le sens où on demande à un peuple tout entier d'avoir une force que la Gemara elle-même compare à celle des anges. Gibor Ekoar, Ose Devaro, Lishmoa Bekol Zaro. C'est un passouk, un verset qui dit donc ceux qui agissent pour écouter. C'est-à-dire qu'ils font, ils se lancent, ils se jettent à l'eau, ils font, et ils essaient de comprendre après comment ils vont s'en sortir. C'est-à-dire agir sans avoir a priori de solution logique. Puisque je rappelle que l'année de la Shemitah, c'est une année de jachère, donc c'est un an entier où un agriculteur qui vit du travail, évidemment, de ses mains dans son champ, il laisse son champ ouvert en disant à tout le monde « Servez-vous, moi je prends que le strict nécessaire, mais surtout il ne peut ni semer, ni moissonner, ni... Bref, il ne fait rien. » Il s'assoit et il étudie, d'ailleurs si, c'est ce qui se passe aujourd'hui encore, hein. Il faut savoir que l'année de la Shemitah, ce n'est pas une année, on va dire, théorique, c'est ce qui s'applique en Israël aujourd'hui encore, par certains nombres d'agriculteurs, évidemment pas tous, mais un certain nombre, qui pendant cette année, ils y passent un an devant leur pupitre en train d'étudier, puisqu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Mais ce qui est extraordinaire, donc, c'est de dire à des gens, allez-y. Mais en fait, économiquement parlant, je vous rappelle quand même qu'à l'époque, et même aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore bien plus pire, la seule base de l'économie de l'époque, c'était l'agriculture. Et donc, arrêter pendant un an, et tout un peuple, et tout un pays, c'est quelque chose qui est proche du suicide, en fait. Hein. C'est, en fait, Hachem dit, j'ai confiance en vous, vous êtes capable, mais pas qu'une élite. Vous êtes capable, c'est-à-dire tout le peuple juif est capable d'avoir ce genre d'attitude, d'avoir une confiance en Hachem pendant un an. Maintenant, Hachem nous dit la chose suivante, c'est dans la paracha de la semaine prochaine, Bechukotai, que si on ne respecte pas l'année de la Shemitah, eh bien, il va y avoir des conséquences. Et les conséquences, ça a été l'exil des 70 ans après la destruction du premier temple, où on était en exil en Babylonie pendant 70 ans avant la reconstruction du second temple. Et c'était à cause du non-respect de la Shemitah, peut-être pas seulement, mais en tout cas, une des causes, c'était le non-respect de la Shemitah, pour nous dire à quel point avoir Eretz Israël, posséder Eretz Israël, ce n'est fait pas posséder sa terre. Hachem veut nous rappeler que cette terre, elle ne nous appartient pas, elle nous est prêtée, elle nous est déposée en picadon. Un dépôt, ça veut dire qu'on doit respecter certaines règles. Et les règles que Hachem nous impose, c'est qu'entre autres, des prélèvements obligatoires à chaque récolte, on appelle la Trouma, le Maaser, c'est des prélèvements obligatoires, puis respecter un an de jachère. C'est quand même extraordinaire. Et lorsque c'est le jubilé, Yovel, c'est 2 ans de jachère, puisqu'il y a la 49e année et la 50e, on ne travaille pas la terre. Et comment on y arrive, hein, finalement, il faut quand même expliquer. On dit que c'est les anges. Bon, mais comment les anges, ils n'ont pas besoin de se nourrir de fruits, de légumes. Mais comment est-ce que nous, les hommes, on s'y prend? Alors, il y a 2 options. Soit la personne est très très confiant en Hachem, alors à celui-là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne à la 6e année exactement la même chose qu'à la 5e et la 4e. Donc logiquement, ce monsieur qui à la fin de la 6e année ne peut pas travailler la terre à la 7e, il doit se poser des grandes questions. Comment va-t-il faire? Il n'a pas plus que d'habitude. Eh bien, la réponse de la Torah, c'est que j'ordonnerai tziviti et birchati, j'ordonnerai ma bracha. Et là, c'est très important de bien entendre ce que je vais dire. Ils ont la même quantité de nourriture, mais la nourriture qu'ils ont, il y a dedans la bracha, la bénédiction. Ça veut dire, je mange un peu, je suis rassasié. D'abord, tout se conserve, tout est utilisé à bon escient, dans les bonnes quantités, et surtout, donc, pas de gaspillage. Mais chaque chose que je mange est très efficace, m'apporte un vrai bien-être, et je sens totalement rassasié. Si je suis moins confiant, alors à Kadosh Baruch Hu, pour la sixième année, il donnera une plus grande quantité de céréales, par exemple de céréales, et donc on aura dans les granges beaucoup plus de réserves, et donc effectivement, la confiance, on va dire, on en a besoin de beaucoup moins, puisque finalement on a ce qu'il faut dans les granges. Ce qui nous demande de la confiance, c'est de nous dire que ça va tenir et qu'on tiendra jusqu'à la huitième année, parce que faut bien comprendre, la septième année, on ne travaille pas la terre, la huitième année, on va semer en début de huitième année, mais on va récolter que vers la fin de la huitième année. Donc c'est plusieurs années sans ressources, et donc ça demande aussi des efforts dans ce qu'on appelle le bitachon, la confiance en Hachem. Ça, je disais que c'est une mitzvah extraordinaire, parce qu'elle sort du lot de toutes les autres mitzvot, et la Gemara le dit, à propos de Naaseh Venishma. Bientôt, ce sera Matan Torah, Shavuot. Et ce qui caractérise le peuple juif par rapport à tous les peuples du monde, c'est que lorsque Hachem nous a proposé la Torah, on ne lui a pas dit qu'est-ce qui est écrit dedans. Tous les peuples du monde ont commencé par poser la question. Mais qu'est-ce qui est écrit dedans? Et qu'est-ce que le peuple juif a dit? Zéro question. Naaseh Venishma. On va faire. Et après, on saura, on comprendra. On n'a pas besoin d'avoir de détails. Cette acceptation a priori du peuple juif de tout ce que représente la Torah sans poser de questions, c'est ce qui caractérise justement le peuple juif lorsqu'il s'engage dans l'année de la Shemitah. Je fais la Shemitah, je ne pose aucune question, mais il y a tellement de questions à poser. Je dois nourrir ma femme et mes enfants, je dois me nourrir moi-même, je dois faire marcher l'économie d'un pays. Non, je ne pose aucune question, Dieu pourvoira. De la même façon que le septième jour, Shabbat, on ne pose pas de questions si quelqu'un nous dit « Mais vous savez, il y a un très gros contrat à signer Shabbat. » Même s'il y a énormément de clients qui ne viennent que Shabbat. Et il y a des métiers où c'est le Shabbat où on fait le plus gros chiffre d'affaires. Des fois, on fait la moitié, 50% de chiffre d'affaires, des fois plus, que le samedi, le Shabbat. Être capable de fermer son affaire alors que tous les concurrents sont ouverts et que, clairement, on risque la banqueroute, la faillite, c'est une force incroyable qu'on demande à chaque juif. Mais là, il s'agit d'une année entière, avec des concurrents aussi dans les pays aux alentours. Ça, c'est, je trouve, la beauté du peuple juif. Kadosh Baruch Hu nous dit, j'ai confiance en chaque juif, le Talmid Chacham, évidemment, mais même celui qui ne connaît rien, qui est très simple, qui a peu de connaissances, qui est un ignorant, je lui fais confiance, il va s'engager dans cette année de Shemitah, et on va réussir à trouver des solutions économique pour pouvoir la traverser. Je voudrais vous rappeler une petite histoire qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années, peut-être vous en rappelez. Vous savez que malheureusement le Hamas, ça ne fait pas depuis hier qu'il nous attaque, depuis toujours, depuis très longtemps, il fait des tunnels. Et un jour, le Hamas avait un plan diabolique, celui de creuser un tunnel, donc il l'avait creusé, mais qui devait rentrer dans le territoire israélien.
Ah oui, c'est avant l'enlèvement des trois gamins.
Voilà, c'est il y a quelques années, je crois maintenant presque 10 ans. Et donc, ils voulaient, donc c'était un commando, donc très, très, très armé, très, voilà, lourdement armé, qui devait surgir à côté d'un des kibboutzim, dont on a parlé malheureusement ces derniers mois, et prendre par surprise tous les habitants. Sauf que c'était justement l'année qui est précédée celle de la Shemitah. Et eux, ils avaient fait un calcul. Ils ont dit, bon, en cette période de l'année, dans les champs, il y a des céréales ou d'autres produits, mais qui sont assez hauts. Donc nous, on va sortir de terre, de notre trou, de notre tunnel, et on sera protégé par cette récolte qui est haute à cette période de l'année. Elle n'est pas encore moissonnée. Sauf que, justement, cette année, il y avait le Badass, donc une instance très religieuse qui s'occupe de la cacheroute, qui justement parce que c'était l'année qui précédait la Shemitah et qui voulait préparer le blé pour les matzot de Pessah de la Shemitah, avait été venu pour moissonner ce champ-là en prévision de Pessah, mais bien en avance. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de moissonner pendant l'année de la Shemitah, donc à partir de Rosh Hashanah. Donc ils avaient rasé le terrain, et donc lorsque les Hamas, ce groupe de terroristes, est sorti de terre, ils ont tout de suite été repérés par les caméras qui sont posées sous les dirigeables israéliens, et ils ont été éliminés très rapidement. Et là encore, on a vu comment, on va dire, le respect de la Shemitah protège le peuple juif, et surtout la confiance que le peuple juif il a en Hachem, en faisant l'année de la Shemitah, c'est ça qui protège. Ce n'est pas la mitzvah elle-même, c'est la confiance que révèle cette mitzvah. Il faut savoir qu'un juif qui est menacé, et je dis à toute la communauté qu'il y a une ségoula la plus extraordinaire qui soit. Celui qui est l'auteur de cette ségoula s'appelle Rav Chaim de Volozhin. Il nous dit que si quelqu'un se trouve dans une situation difficile, voire même très dangereuse, qu'il pense et qu'il réfléchisse, qu'il se concentre sur une chose. En od milvado, il n'y a rien à part Hachem. Même un juif qui n'est pas spécialement pratiquant, spécialement fervent dans son service divin, s'il est capable, dans un moment un peu de stress quand même, hein, on est très stressé, on ne sait pas ce qu'on va devenir, mais de se concentrer, de dire « En od milvado », il n'y a rien à part Hachem, tout ce que Hachem... En fait, c'est un peu comme si je me lançais dans les bras d'Hachem en disant « C'est toi qui décides, ce n'est pas ce terroriste qui saura faire, je dépends que de toi ». Et je me rappellerai toujours de la caissière d'Hypercacher, qui s'appelle Zari, que j'ai rencontrée parce qu'elle est allée voir le Rav Sitruk, Zechat Salih Givracha, à la maison, et je me rappelle que je l'avais vue et qu'elle était elle a fait un voyage avec nous en Israël. Je me rappelle toujours ce que Rav Chaim Kanevski a dit à sa mère. Il lui a dit, elle sortira avant Shabbat. Et je suis allé avec elle pour remercier le Rav Chaim Kanevski qui avait rassuré sa mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez peut-être pas, enfin si, je crois que vous le savez, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives du terroriste de la tuer. Que son fusil s'est enrayé, et il lui a dit ces mots, ce terroriste. Il lui a dit, c'est pas votre heure aujourd'hui. C'est le terroriste qui a dit ça. Il voyait qu'il n'arrivait pas à la tuer, et il s'est dit, c'est pas votre heure. Tout ça pour vous dire que une personne qui est protégée, même s'il y a un terroriste armé en face, il ne peut rien contre lui. Et si on veut être protégé, il faut se lancer dans les bras d'Hachem, c'est-à-dire se concentrer sur En Od Milvado. Il n'y a rien par Hachem. Alors, je souhaite à personne d'avoir besoin de cette phrase et de vivre des moments aussi stressants, mais cette ségoula de Rav Chaim de Volozhin doit nous rappeler que la notion de Bitachon, que l'année la Shemitah représente, une force incroyable du peuple juif qui est capable de prendre d'énormes risques financiers, économiques pour tout un pays, en se disant, si Hachem l'a ordonné, Hachem me donnera la bracha. Et rappelons-nous un deuxième élément. On peut gagner beaucoup d'argent et n'avoir aucune bénédiction dans cet argent. C'est-à-dire le dépenser pour des PV, des amendes et des taxes et chez le médecin. Et on peut avoir peu d'argent, mais cet argent est bien utilisé. Il apporte la beracha, il nous apporte la nourriture, le bien-être et la joie. Donc ce qu'il faut, c'est pas gagner de l'argent, c'est d'avoir la beracha. Et l'argent, ça peut être un vecteur de bracha. Mais attention, l'argent avec la bracha, c'est uniquement de l'argent kasher. De l'argent honnêtement gagné, de l'argent gagné en respectant la halakha et la droiture. Et ça, effectivement, il faut s'en rappeler tous les jours. Vetziviti et bichati. J'ordonnerai ma bracha, dit Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, se rappeler qu'il faut avoir confiance en lui, même dans des moments difficiles, et encore plus dans les moments difficiles. Donc autant plus qu'aujourd'hui, on espère très fort le retour des otages, on espère la protection de nos chayalim et de tout le clan Israël. Donc c'est le moment, ou jamais, de nous renforcer dans ce domaine pour qu'on soit zoché bezrat Hashem et une Yeshua, un sauvetage total, complet et rapide.
Amen, amen. Mais on le voit, nous, dans nos vies tous, tout le monde, hein, inconsciemment. On se dit, mais je comprends pas, j'ai bien gagné cette semaine ou ce mois, et l'argent il est parti d'un coup. Je sais pas, ces vacances-là, l'argent il est parti, je sais pas, on n'a pas rien fait d'incroyable. Et d'autres fois, c'est le contraire. On dit, dis donc, on est bien, je suis content. Et j'avais vu dans une Gemara que l'idée aussi de pas trop regarder ses pièges, je parle sous votre contrôle, évidemment, je vous pose la question, mais de pas trop regarder les pièces qu'on a dans la poche, de pas trop regarder sa caisse. Vous savez comment on essaye de, on aime bien faire, de pas regarder quoi. On se dit peut-être Dieu il va. Eh ben il paraît que si, si on n'est pas vraiment à côté de ses sous, comme ça à regarder comme Picsou ce qu'on a dans le, ce qu'on a dans son tiroir caisse, Dieu il se laisse une marge de manœuvre, et il peut rajouter un peu. Et c'est dans une Gemara.
Alors je vais vous citer la Gemara exactement. En abracha shora ela bedavar asamui minayin. La bénédiction ne réside que dans la chose qui est cachée de l'œil.
Bien sûr, ce qui est caché.
Et pourquoi, je veux dire pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous savez exactement que vous avez, par exemple, 100 euros dans votre poche, et que vous en trouvez 200, évidemment, c'est un miracle dévoilé. On est d'accord, c'est un miracle incroyable. Vous êtes sûr que vous avez 200, et vous retrouvez 200. Dites, bon, ça c'est HM qui m'a envoyé. Là, avoir le mérite d'avoir un miracle dévoilé, il y a très peu de gens qui l'ont. Par contre, si vous ne savez pas combien vous avez dans votre poche, HM, il peut vous en rajouter une quantité.
Et il paraît que ce n'est pas de la superstition, parce que moi, je me disais, ah, t'es un peu superstitieux de penser comme ça. Non, non, il y a un Gemara qui le dit.
Ah oui, je cite une Gemara, là. Ah, ouais. Et donc, la Gemara, effectivement, déconseille de trop calculer, de trop compter, parce que la Beracha, elle réside dans les choses. En plus, vous savez tous le problème du Ainara, de la. Lorsqu'il n'y a pas de. Lorsque c'est discret, il y a la Beracha.
Très beau. On pensera également, puisqu'on est, on pense tous à nos frères en Israël, à acheter à chaque fois qu'on a la possibilité de le faire, même dans son Franprix, de prendre les avocats d'Israël, etc. Parce que ça les aide. En plus, tout le monde les menace de boycott.
De boycott.
Hein, et c'est donc super important. Mais Rav Gay va vous dire, mais attention, quand on prend des fruits d'Israël, il faut faire il y a une petite formule à dire. Qui est toute bête, elle est à la fin du Pétach Eliaou, il faut faire un petit...
Un prélèvement d'un peu plus d'un centième. Que l'on peut envelopper et jeter à la poubelle, un peu plus d'un centième, et avant de le jeter à la poubelle, il faut donc prélever, laisser sur le kilo, par exemple, d'avocat que vous avez pris, et puis vous dites la formule qui se trouve là-bas, mettre
dans le pétard et diabou, ouais.
Voilà, et une pièce de monnaie aussi à mettre de côté, donc si vous avez besoin de détails, il faudrait que je vous explique à un autre moment, mais en tout cas, il y a une petite chose à faire, mais qui nous permet effectivement de consommer sans problème.
Magnifique, et comme ça, en plus, on est tellement content, on se dit c'est un meilleur goût de savoir qu'on les aide et tout le monde les menace de boycott. Rav Gay, je vous remercie. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Et à la semaine prochaine. Bonsoir Rav Gay.
Au revoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat shalom. Je vous retrouve à 18h pour un journal qui sera enregistré. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoy mai.